Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, au micro Timothée Donangmaï pour un bulletin d'information. La fillette de 2 ans récemment rentrée au Mali après avoir contracté l'Ebola en Guinée est décédée hier. C'était le premier cas de la maladie détecté au Mali. Selon l'OMS, la fillette et sa famille ont voyagé par bus et pourraient avoir exposé d'autres personnes au virus. Les autorités tentent de les retrouver. En Côte d'Ivoire, les autorités recherchent depuis 3 jours un aide-soignant guinéen arrivé dans le pays après un contact avec une personne atteinte de l'Ebola. Ici, aux États-Unis, les autorités sanitaires de l'État du New Jersey, près de New York, ont annoncé qu'une femme tombée malade au retour d'un voyage en Afrique de l'Ouest n'a pas l'Ebola, mais va être gardée en quarantaine pendant 21 jours tout de même. Un médecin rentré récemment de Guinée et souffrant de l'Ebola est soigné à New York. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a à présent fait plus de 10 000 malades et près de 5 000 morts. Les autorités égyptiennes ont instauré l'état d'urgence dans certaines parties de la péninsule du Sinaï après la mort d'au moins 30 soldats hier dans l'attaque d'un poste de contrôle qui a par ailleurs fait une vingtaine de blessés. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a décrété un deuil national de 3 jours en mémoire des victimes. C'est demain que plus de 5 millions de Tunisiens iront aux urnes pour les premières législatives depuis la révolution de 2011. Ils devront choisir, à la proportionnelle, 217 députés à partir de quelques 1300 listes présentées par une centaine de partis. Le gouvernement a prévu de déployer des dizaines de milliers de soldats pour sécuriser les bureaux de vote. Hier, 6 terroristes présumés ont été abattus non loin de Tunis. L'élection présidentielle suivra le mois prochain. L'évêque soudanais Markham Gassis appelle à l'arrêt immédiat des attaques indiscriminées contre les civils dans les régions du Nil Bleu et des monts Nouba où l'armée soudanaise affronte le mouvement de libération du peuple soudanais depuis 3 ans. S'adressant à la presse à Nairobi, il a fait état de bombardements aériens contre des civils au sud Kordofan. Citant des témoins, il a dit qu'un raid de l'aviation gouvernementale contre un marché de Eiban dans les monts Nouba le 16 octobre, a fait 7 morts et plusieurs blessés. Le département d'État américain a demandé une enquête rapide et transparente au sujet de la mort d'un adolescent palestino-américain abattu par l'armée israélienne hier. Les responsables militaires israéliens disent pour leur part qu'une attaque a été évitée lorsque les soldats ont tiré sur Orwan Ahmad, âgé de 14 ans, alors qu'il lançait des bombes incendiaires sur une autoroute de Cisjordanie. En début de semaine, un Palestinien a foncé avec sa voiture sur des gens dans une gare de Jérusalem, tuant un bébé de nationalité américaine également. En Irak, des sources sécuritaires affirment que les combattants kurdes ont repris le contrôle de la ville de Zouma et de quelques villages environnants après de violents affrontements avec les militants de l'État islamique. Les forces de sécurité irakiennes ont de leur côté reconquis la ville de Djurf al-Sakhar dans le centre du pays, après d'intenses combats contre l'État islamique. Le commandement central américain a annoncé aujourd'hui que la coalition internationale a mené 22 raids aériens contre les djihadistes hier et aujourd'hui, notamment à proximité du barrage de Mossoul ainsi qu'à Fallujah. Le premier ministre canadien Stephen Harper demande au Parlement d'étendre les pouvoirs des services de renseignement pour, dit-il, leur permettre de traquer et de détenir les terroristes présumés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Une requête de M. Harper qui fait suite à 2 attaques cette semaine à Ottawa et près de Montréal, dans lesquelles 2 soldats ont été tués. Les États-Unis ont condamné la pendaison aujourd'hui de l'Iranienne de 26 ans, Rehane Jabari, reconnue coupable du meurtre d'un homme qui, selon elle, l'avait agressée sexuellement. Il y a de sérieux doutes sur l'équité du procès et les circonstances entourant ce dossier, a déclaré Yen Saki, porte-parole du département d'État. L'exécution a eu lieu suite au refus de la famille de la victime, un ancien agent de renseignement iranien, d'accorder le pardon à la jeune femme ou d'accepter une compensation financière. Toujours ici aux États-Unis, les autorités tentent de faire la lumière sur la fusillade survenue hier dans un lycée de Seattle dans le nord-ouest du pays. Un élève a ouvert le feu dans le réfectoire du lycée, blessant 4 élèves avant de se donner la mort.
réservoir. Donc, c'est l'espèce animale qui héberge de manière naturelle, sans être malade, le virus. Donc, pour l'instant, tous les éléments scientifiques à notre disposition suggèrent fortement que ces espèces animales sont des chauves-souris. Donc, des chauves-souris, en fait, hébergeraient de manière permanente et asymptomatique, donc sans être malade, le virus. Et à ce moment-là, donc, il y aura une transmission du virus des chauves-souris à l'homme par la consommation, parce que ce sont des animaux qui sont mangés et consommés par les populations locales ici en Afrique.
Alors, on avait repéré des premiers cas de virus à Ebola en Afrique centrale dans les années 70, mais maintenant, toute l'Afrique de l'Ouest semble concernée. Est-ce qu'il est temps de mettre au point des programmes de vaccination, etc., puisque le passage d'une espèce animale à l'homme semble s'accélérer?
Oui, tout à fait. Il faut agir dans deux directions. Première direction, effectivement, pour lutter de manière plus efficace encore lorsque l'épidémie est déclarée, il faut aller dans la conception et la validation d'un vaccin et d'un traitement. Donc ça, c'est une voie, un axe. Mais le deuxième axe aussi, comme vous dites, le passage du virus de l'animal à l'homme semble s'accélérer. Donc, ce serait intéressant d'essayer de déterminer les facteurs qui conditionnent et qui gouvernent ce passage du virus de l'animal à l'homme. Ça, dans le but de pouvoir prévenir et empêcher le passage du virus de l'animal à l'homme.
Éric Leroy, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, il était joint au Gabon. Ici Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. Le nombre de personnes infectées par le virus Ebola est en croissance en Guinée. Pour renforcer la riposte à l'épidémie, le président Alpha Condé a reçu d'anciens médecins et étudiants en médecine pour les appeler à s'impliquer dans la lutte contre la maladie. On suit un reportage de Zakaria Camara.
Nous sommes en guerre, disait le président guinéen à la presse qu'il avait reçu à Ceruturia il y a quelques semaines. L'ordre du jour était Ebola, une épidémie face à laquelle le professeur Alpha Condé entend renforcer la riposte grâce aux anciens médecins à la retraite. Le docteur Ousmane Ba, ancien député, ancien ministre, apprécie la main tendue du chef de l'État.
Un médecin n'est jamais retraité en réalité. Même quand il est retraité de la fonction publique, les malades continuent toujours à le consulter. Mais il faut que nos gens qui nous aident, Médecins sans frontières, soient des gens aussi formés. Donc il faut même les médecins retraités et tout. Ils ont besoin de recycler, même sommairement pendant 3 ou 4 jours, et leur donner les moyens de se protéger eux-mêmes avant de les mettre en circulation.
Les moyens, la formation, des insuffisances constatées depuis l'apparition du virus au mois de mars en Guinée. L'appel du président à l'endroit d'anciens médecins est l'un des sujets commentés à Conakry.
Et il faut considérer la maladie Ebola comme étant une maladie à destruction massive. Par conséquent, il faut déployer tous les moyens nécessaires pour éradiquer cette maladie.
Au lieu d'appeler les anciens médecins et qui n'ont jamais suivi la formation de hémorragie Ebola. Donc il faut faire appel à les médecins internationaux pour pouvoir intervenir. C'est ce qui est bon. Parce que les médecins retraités là, il y en a d'autres qui sont à la retraite pendant 15 ans, 20 ans comme ça. Ils n'ont pas l'expérience.
C'est un acte responsable. La plupart ont été formés dans les pays de l'Est, comme Cuba, la Roumanie, en Union soviétique, Tchécoslovaquie. Ils ont reçu une très bonne formation. Donc, c'est des mesures sanitaires.
Et si les médecins à la retraite, et s'ils ont cette expérience de l'Ebola? L'Ebola, d'abord, c'est une maladie, d'abord, on n'avait jamais connu. Mais et s'il faut appeler les médecins là, quel sera leur avantage?
C'est une bonne idée parce que déjà, l'effectif n'est pas là. Si on fait appel aux anciens qui ont déjà l'expérience, c'est une très bonne idée.
Le président Condé a reçu cet après-midi les médecins à la retraite et les étudiants en médecine pour leur dire combien leurs implications sont attendues. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Camille Grodidier avec vous pour Carrefour Sciences et Santé. De meilleures données ont révélé 1 million de cas supplémentaires de tuberculose à travers le monde. C'est ce qu'affirme le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé sur la tuberculose. Ce document précise que 9 millions de personnes ont développé la tuberculose en 2013 et qu'1,5 million d'entre elles en sont mortes, dont 360 000 séropositifs. Toutefois, le taux de mortalité dû à la maladie continue de baisser, ainsi que le nombre de malades, a déclaré le docteur Mario Raviglione, directeur du département HALT à la tuberculose de l'OMS. Dans une interview avec La Voix de l'Amérique, il a évoqué des progrès en Afrique subsaharienne.
L'Afrique, elle est en train de descendre aussi, dans une manière qui est, je dirais, intermédiaire entre les Amériques et la région du Pacifique occidental et le reste du planète. C'est-à-dire qu'il y a une réduction importante parce que en Afrique, on avait une augmentation très importante dans les années 90. Et après, le maximum qui a été, je dirais, achevé vers 2004-2005, on a vu maintenant une réduction qui dure à partir de cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Et c'est évidemment accompagné par la réduction du VIH. C'est en fait la conséquence de la réduction du VIH en Afrique.
Et du côté des traitements, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés avec les variétés résistantes, notamment aux antibiotiques.
Alors là, il faut distinguer. Pour ce qui concerne le traitement de la tuberculose, on dirait normale, c'est-à-dire la tuberculose qui n'est pas résistante aux médicaments, on a toujours un taux de guérison qui est très élevé. À niveau mondial, sur un total de à peu près 6 millions de cas qui sont officiellement notifiés, et dont on mesure la guérison plus ou moins dans la moitié de ces cas-là, parce qu'ils sont les cas crachats positifs et bactériologiquement plus faciles à monitorer. Alors là, on voit un taux de guérison qui est de 86% cette année. Et ça, c'est plus ou moins le même qu'on a eu dans les dernières 4 ou 5 années, avec 86-87%. C'est bien. Ce qu'on a constaté, c'est que le taux de guérison, le pourcentage des personnes guéries, quand ils ont une forme de tuberculose qu'on appelle multirésistant, c'est-à-dire qui est résistant au moins aux deux antibiotiques les plus importants, l'isoniazide et la rifampicine, alors là, on a un problème. Et le problème est que le taux de guérison n'arrive pas à 50%, on est à plus ou moins à 48% pour ce qu'on sait aujourd'hui. Et ça signifie évidemment que la possibilité de guérir les malades affectés par la multirésistance est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. La durée du traitement n'est pas 6 mois, mais elle est 18, 24 mois. Il y a un taux d'échec qui est élevé, il y a une mortalité qui est élevée.
On constate quand même des progrès cette année dans la lutte contre la tuberculose, selon l'OMS.
Je dirais que cette année, on peut dire qu'il y a des progrès. En même temps, les grands défis sont là et les grands défis pratiquement correspondent à ce qu'on doit faire pour améliorer encore plus la réponse à la multirésistance. On a le grand défi de la TB associée au VIH, surtout dans la région africaine. Et on a un grand défi pour ce qui concerne les cas qui sont estimés. On estime 9 millions de cas en 2013 et les cas qui sont officiellement notifiés par les pays qui arrivent à plus ou moins 6 millions. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de cas qui est à peu près de 3 millions qui ne sont pas dans le système. Soit ils ne sont pas vraiment identifiés et diagnostiqués, soit ils sont identifiés et diagnostiqués et traités dans le secteur privé et on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans certains pays où le secteur privé est très important. Et ça, c'est vraiment un grand défi pour la tuberculose, mais aussi pour les autres maladies qui ont une signification de santé publique et qui sont traitées par le secteur privé. Et là, il faut vraiment trouver la synergie.
Le docteur Mario Raviglione, directeur du département HALT à la tuberculose de l'OMS, il était joint à Genève. Camille Grodidier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme de La Voix de l'Amérique. Les Nations Unies aident 6 pays d'Afrique centrale à organiser des campagnes synchronisées de vaccination contre la poliomyélite après que le Cameroun eut signalé un 5e cas de poliovirus sauvage sur son territoire. 4 cas similaires ont été également détectés au sud de ce pays en Guinée équatoriale. Je vous propose de suivre ce reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gaïma.
À cause de ces situations, Charlotte Fatindiaï, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, préconise la vaccination de tous les enfants âgés de moins de 5 ans au Tchad, au Gabon, au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine.
Le Cameroun fait partie des pays exportateurs et nous espérons qu'au sortir de cet assaut final, nous espérons que cette 8e campagne est la dernière, que c'est véritablement un assaut final, que tous les enfants en âge d'être vaccinés seront vaccinés.
Tous les hôpitaux d'Afrique centrale disposent des vaccins anti-polio depuis la première phase de la campagne organisée en septembre dernier. C'est le 31 octobre que doit commencer la deuxième phase, de nouveau Madame Fatindiaï.
Nous lançons aussi une campagne synchronisée pour tous les pays d'Afrique centrale. Tous les pays d'Afrique centrale ont démarré une campagne de vaccination pour que réellement on participe à l'initiative d'éradication.
L'OMS recommande aux ressortissants des pays affectés qui se rendent à l'étranger de voyager avec leur carnet de vaccination. Ce qui n'est pas toujours possible avec certains pays, comme la République centrafricaine, ravagée par la violence. Le ministre camerounais de la Santé, André Mamafouda, insiste sur la coopération des pays voisins.
L'engagement est pris par les États d'éradiquer la poliomyélite. Nous lançons, dans le cadre de l'ensemble des pays de l'Afrique centrale, une campagne synchronisée pour que nous puissions protéger nos enfants de moins de 5 ans de la poliomyélite. Et surtout, nous souhaitons que notre pays soit reclassé, parce que jusque-là, nous sommes dans le groupe exportateur de la poliomyélite, mais nous allons vers son éradication.
L'Organisation mondiale de la santé a enregistré le 30 avril 68 cas de polio à travers le monde, soit 24 de plus par rapport à la même période l'année dernière. Le total était de 417 en 2013. L'Afghanistan, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, l'Irak, Israël et la Somalie continuent de poser un risque d'exportation du poliovirus sauvage en 2014. La propagation des virus a été expliquée ces dernières années par des attaques dans certains pays contre les agents de santé, le peu d'importance accordée aux campagnes de vaccination et la négligence de certaines familles. L'OMS a déclaré urgence internationale la lutte contre la polio qui risque dans les prochains mois d'effacer les progrès réalisés depuis presque 3 décennies.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute de Carrefour Sciences et Santé en compagnie de Camille Gros-Didier. La première centrale thermosolaire du Maroc, au cœur du vaste projet de parc soleil Ouarzazate, sera opérationnelle en 2015, signale l'agence France Presse. Des précisions avec Michel Joseph.
La mise en activité de cette centrale a été annoncée par Mustapha Bakouri, président du directoire de l'Agence nationale de l'énergie solaire. Il s'agit pour le Maroc de s'éloigner du charbon dont le pays est lourdement tributaire.
Donc on a vraiment besoin de chercher d'autres formes d'énergie pour subvenir aux besoins du Maroc. Et donc le meilleur moyen, c'est le solaire. C'est une énergie gratuite, illimitée et disponible et abondante au Maroc.
Le Maroc a l'ambition de produire 2000 MW d'énergie solaire à l'horizon 2020, notamment pour mitiger l'impact du changement climatique en développant les énergies renouvelables.
Ouarzazate, ville de la durabilité sur le plan environnemental, du recyclage, de la valorisation, de l'économie de l'eau, Ouarzazate de la micro-irrigation, de la réutilisation des eaux usées, de l'éclairage avec le solaire et Ouarzazate, la ville intelligente.
Le projet de parc solaire Ouarzazate, d'un coût global de 7 milliards d'euros, sera opérationnel en 2015, ajoute l'agence France-Presse. À lui seul, il produira jusqu'à 160 mégawatts. Pour familiariser les populations avec les énergies renouvelables, le Maroc vient d'organiser un festival des énergies renouvelables. On écoute l'un des organisateurs, Mehdi Alaoui Mdagri.
Nous avons organisé ce festival pour démontrer une seule idée, l'or est dans le ciel. Le soleil est une richesse pour notre pays, et nous souhaitons le démontrer à travers 3 pôles, 3 axes. L'art et la culture, les sciences et la technologie, la connaissance et la découverte.
Au total, le Maroc compte se doter de 5 nouvelles centrales solaires.
Ici Washington, Camille Gros-Didier pour Carrefour Sciences et Santé. Des chercheurs chinois affirment avoir découvert et testé un virus surnommé M1 qui pourrait tuer les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules normales. Le point avec Jacques Aristide.
Selon les médias d'État chinois, ce virus a été prélevé sur un certain type de moustique trouvé dans la province méridionale de Hainan. Le M1 entrave la croissance de cellules cancéreuses du foie, de la vessie, du côlon et du rectum. Jusqu'à présent, il n'a été testé que sur des souris. Prochaine étape, l'inoculer à des singes. L'équipe qui a découvert ce virus est dirigée par le professeur Yan Guanmei de l'école de médecine Zhangshan, qui dépend de l'université Sun Yat-sen à Guangzhou. Ce type de moustique a été détecté par d'autres scientifiques chinois en 1964. Notre prouesse est d'avoir prouvé que le virus transporté par ces moustiques peut éventuellement être utilisé dans des thérapies contre le cancer, expliquait M. Yan. Et le professeur d'ajouter que l'étude pourrait représenter une percée dans le traitement du cancer. Son équipe espère entamer des essais cliniques d'ici à 3 ans. Michael Woodhead, un chercheur basé à Sydney et spécialiste de la Chine, estimait dans une interview accordée à la Voix de l'Amérique que l'équipe du professeur Yan est un groupe qui a une bonne réputation dans une bonne université. Néanmoins, il est encore trop tôt pour dire si cette thérapie s'avérera utile pour traiter les cancers chez les humains.
It's a very novel and a very interesting approach to treating cancer, but it's in the very early stages.
C'est une approche très novatrice et très intéressante pour le traitement du cancer, mais on en est encore à la première étape, un stade très exploratoire. Très peu de travaux ont été publiés sur ce virus, environ 6 ou 7 articles au total, ce qui en termes scientifiques est très peu en fait, a estimé M. Woodhead. Il faudra peut-être des années, voire des décennies, avant qu'on en arrive à des essais cliniques, si même on en arrive là, a-t-il poursuivi. Entre-temps, M. Woodhead suggère que la Chine adopte des méthodes de prévention et de traitement du cancer qui ont déjà fait leurs preuves, notamment une réglementation accrue du tabac et du tabagisme. Près de 2,5 millions de personnes meurent du cancer chaque année en Chine, pays où le taux de tabagisme reste parmi les plus élevés au monde.
Et pour finir cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique, eh bien, le Parlement européen a décerné cette semaine le prix Sakharov pour la liberté de penser au gynécologue congolais Denis Mukwege. Des précisions avec Anne Albertson.
Le docteur Mukwege a été récompensé pour son travail inlassable auprès des femmes et enfants victimes de viols et autres violences sexuelles dans des conflits armés, notamment en République démocratique du Congo. Le docteur Mukwege a créé l'hôpital et la fondation Panzi dans l'est de la RDC, où il opère depuis plus de 15 ans. Son combat en faveur des victimes de violences sexuelles est reconnu dans le monde entier et son nom a été mentionné pour le prix Nobel de la paix. Mercredi, le chef de la MONUSCO lui a rendu hommage. « Je me réjouis de l'honneur fait au docteur Mukwege. Cette récompense permet de mettre en lumière son infatigable et irremplaçable combat contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux enfants et aux hommes en RDC », a dit Martin Kobler. Ce prix est aussi un message adressé aux groupes armés et à tous les individus qui continuent à martyriser les populations congolaises. Ces violences doivent prendre fin. Avec des héros comme le docteur Denis Mukwege, nous y parviendrons, a ajouté le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Le prix Sakharov a été créé en 1988 par le Parlement européen en l'honneur du scientifique et dissident soviétique Andrei Sakharov. Il rend hommage aux personnes ou organisations qui œuvrent à la défense des droits de l'homme et des libertés. Parmi les autres lauréats du prix Sakharov, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivie.